Que son nom soit béni pour sa merveilleuse présence. Alléluia. Alléluia. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternels à sa droite. Alléluia. C'est vrai, mes amis. Quand on veut nous faire croire que aimer le Seigneur, c'est une vie triste et monotone, alors il faut bien se poser la question, de quel Seigneur parle-t-il? Aimer Dieu, c'est triste. De quel Dieu parle-t-il? Le vrai Dieu qui s'est manifesté est celui qui nous donne cette vraie joie. Alléluia! Jamais je n'ai été aussi heureux que lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur. Jamais. Et le diable, quand je me suis converti, il a eu le toupet de me dire, si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu vas être le plus malheureux des garçons. Vous vous rendez compte? Et vous savez comment je l'ai fait taire? Vous savez comment? Il me parlait à l'oreille et je lui ai dit, comment? Je vais être malheureux si je donne mon cœur au Seigneur? Mais je ne vais pas être malheureux! Je le suis déjà! Ça fait 20 ans, je me suis converti à 20 ans, ça fait 20 ans que je suis à ton service, et c'est pendant 20 ans que je suis malheureux. Qu'est-ce que tu me racontes là? Quand j'ai dit ça, il n'a plus rien dit. Il me dit, tu vas être malheureux, mais je lui dis, mais je suis malheureux à ton service! À partir de maintenant, je quitte ton service et ton royaume! Alléluia! Alléluia! Et ce maître est si merveilleux! Connais-je mille voix pour chanter ses louanges, glorifier son amour? Il nous faudra toute l'éternité, mes amis, pour chanter son amour, toute l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte encore là-dessus? Ceux qui sont forts en maths, expliquez-moi un petit peu. Expliquez un petit peu. Toute l'éternité pour comprendre son amour. Vous vous rendez compte? Toute l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on... C'est impossible de comprendre. Il faut tout simplement croire. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous donner brièvement les trois signes d'un chrétien consacré. Trois signes. Trois marques qui révèlent un chrétien consacré. J'aimerais qu'on lise Philippiens chapitre 3. Car si Jésus s'est donné pour nous, que devons-nous faire nous en retour, mes amis? Nous devons nous donner à lui. Il s'est consacré, cela veut dire qu'il s'est totalement donné pour nous. Et nous en retour, nous devons totalement nous donner à lui. Sinon, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Pourquoi certains chrétiens ne sont pas joyeux? Parce qu'ils ne se sont pas donnés entièrement à Jésus. C'est pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est tout simplement ça. Moi, à un moment donné, il y a eu des combats dans ma vie chrétienne. Au début de ma conversion, bon, ça allait, c'était formidable. Mais quelques mois après, il y a eu un peu un petit tunnel, des moments difficiles. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais pourquoi tu es dans cet état-là? C'est que j'avais repris un petit peu ma vie à moi. Je m'étais repris. J'ai réalisé que ma vie n'était pas 100% pour le Seigneur. Et c'est pourquoi j'avais perdu ma joie. Et alors je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas d'histoire. Maintenant, il faut que je me redonne à toi 100%. 100%. Amen.
Amen.
Si on se donne 100% pour Dieu, Dieu se donne 100% pour nous. Gloire au Seigneur.
Amen.
Les trois signes d'un chrétien consacré. Lisons Philippiens 3. Philippiens 3, les 14 premiers versets. Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec sa justice, celle qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Quelle parole extraordinaire! Paul révèle son cœur. Pour lui, j'ai renoncé à tout. Et il avait beaucoup à renoncer. Nous, on doit renoncer à tout, mais notre tout n'est pas grand-chose. Mais Paul, il a renoncé à tout. Et son tout, c'était beaucoup. C'était un des plus grands universitaires de son temps. Hébreu né d'hébreu. Et il dit tout ce qu'il est de la tribu de Benjamin, de la race d'Israël, circoncis le huitième jour, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable quant à la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Quelle consécration! Quelle consécration! Mes frères, c'est à cela aussi que nous sommes destinés. Et j'aimerais vous donner trois simples pensées qui proviennent un peu de tout ce que nous avons lu maintenant. Et c'est une chrétienne qui, voulant aussi être entièrement à son Seigneur, car vous l'avez vu, il dit ici, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Il arrive à un moment donné où il y a une profonde intimité avec Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et cette chrétienne qui voulait aussi vivre intensément sa foi a fait un jour cette prière au Seigneur et a dit ceci. Seigneur, je te demande d'avoir trois blessures dans ma vie. Bien sûr, je parle spirituellement, n'est-ce pas? Trois blessures. Et je voudrais qu'elles ne guérissent jamais, ces blessures. Elle a dit, Seigneur, je voudrais avoir tous les jours de ma vie la blessure de la contrition. Deuxièmement, je voudrais avoir tous les jours de ma vie la blessure de la communion. Et troisièmement, je voudrais avoir la blessure de la compassion. La blessure de la contrition. La blessure de la communion. Et la blessure de la compassion. Ces trois blessures vont dans trois directions. La blessure de la contrition, du brisement, c'est la blessure qui nous concerne personnellement. La deuxième blessure, qui est la blessure de la communion, est en rapport avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et la troisième blessure est en rapport avec notre prochain, la blessure de la compassion. Amen. Car tout ce que nous expérimentons n'est jamais pour nous-mêmes. Dieu nous bénit toujours pour nous rendre en bénédiction. Oh, mes amis, faisons aussi cette prière. Seigneur Jésus, je veux que ces trois blessures soient en moi. Trois blessures profondes qui guériront les autres aussi, qui apporteront la guérison autour de nous. Mais ce sont trois blessures que seul un chrétien consacré peut faire. La première, la blessure, la marque, la blessure de la contrition. C'est là une vérité que l'apôtre Paul a découvert lui-même. Voyez-vous, il décrivait un petit peu tout ce qu'il était avant sa conversion. Mais à un moment donné, il y a eu comme un brisement. Le problème de l'apôtre Paul était son orgueil. Alors vous dites, c'est pas possible. L'apôtre Paul était orgueilleux. Je ne dis pas qu'il était orgueilleux, mais ça a été son problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pourquoi est-ce que Dieu lui a envoyé une écharde? Pourquoi? Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. À cause de l'excellence des révélations qu'il a eues. Paul a tellement été béni de Dieu que l'orgueil était là et guettait chaque pas de son apôtre. Et pour que l'apôtre puisse réaliser la pleine volonté de Dieu dans sa vie, il fallait qu'il soit blessé dans ce domaine-là. Comme Jacob a été blessé à la hanche, et dans Jacob, il est devenu un Israël. Un homme brisé. Et c'est quand il a été brisé que Dieu l'a appelé « Tu es Israël ». Israël veut dire « vainqueur de Dieu ». C'est quand nous acceptons cette blessure de la contrition et du brisement dans notre vie que nous sommes réellement forts et plus que vainqueurs. Alléluia! Et l'apôtre Paul pouvait dire, c'est quand je suis faible que je suis fort, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. L'apôtre a expérimenté cette blessure de la contrition, qui est ce brisement, mes amis. Dieu ne peut pas utiliser certaines personnes parce qu'il n'y a pas cet esprit de brisement. Bien sûr, qui peut dire qu'on est parfaitement brisé, n'est-ce pas? On est tous sur le chemin. Personne ne peut prétendre quoi que ce soit. Mais quand même, si nous voulons que Dieu commence à nous utiliser, cette blessure de la contrition, du brisement de notre orgueil, de notre propre suffisance, de notre sagesse, trop souvent, nous sommes imbus de nous-mêmes. Le piège est encore plus grand lorsque nous sommes bénis. Et nous pensons que Dieu nous bénit à cause de ce que nous sommes. Nous ravissons la gloire qui revient à Dieu. Si nous voulons marcher sur les traces du Seigneur, il nous faut dire Seigneur, je veux cette blessure du brisement et de la contrition. Je veux réaliser toujours plus ma faiblesse. Mes amis, il y a une chose que nous ne saisissons pas très bien. C'est que lorsque Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, nous pensons que nous devenons plus forts nous-mêmes. C'est une grave erreur. Lorsque Dieu nous donne sa force en nous baptisant dans le Saint-Esprit, vous ne devenez pas plus fort vous-même, jamais. Au contraire, pourquoi nous demandons-nous la puissance du Saint-Esprit? Parce que nous avons réalisé notre faiblesse. Bien souvent, on fait ce reproche à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ou qui recherchent une autre bénédiction. Qu'est-ce que tu as de plus que toi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Vous voyez, quand on dit « j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit » et les autres ne le sont pas, hein, souvent on est critiqué, on est jugé à cause de ça. Qu'est-ce que tu as plus? Tu veux me faire croire? Mais vous savez, une réponse à cela. Tu penses-tu que tu es meilleur que moi? Parce que tu dis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as fait ça. Penses-tu que tu es meilleur que moi? Eh bien, souvent, c'est pas qu'on répond. Mais vous savez, il y a une bonne réponse. Non, mon ami, c'est exactement le contraire. Parce que j'ai réalisé que j'étais pire que toi. Pas possible. Qu'est-ce que... Eh oui! Si j'ai expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que j'ai réalisé ma faiblesse, mon indignité. C'est que j'ai réalisé que je ne suis rien. Tu crois que t'es plus que moi? Mais non! J'ai compris que j'étais moins que toi! Pas possible, qu'est-ce que je suis toi? Je comprends plus rien. Eh oui, c'est cela. Et lorsque Dieu nous remplit de son esprit, mes amis, écoutez-moi bien, ceci est important, parce que beaucoup sont tombés à cause de cela. On pense que c'est nous qui sommes plus forts. Et nous commençons à nous croire plus forts. Mais nous ne sommes pas plus forts. C'est la puissance de Dieu qui peut agir plus librement au travers de nous, au travers de notre faiblesse. Et plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous devons être conscients de notre faiblesse. Alléluia! Et mes amis, plus nous le serons, plus la puissance de Dieu se manifestera au travers de nous. Mais pour cela, il y a la blessure de la contrition. Et pour cela, Dieu doit nous faire passer par certains chemins. Dieu sait le chemin par lequel tu dois passer pour ton salut. Et lorsque nous sortirons de cette épreuve, nous ne serons plus les mêmes personnes. Et nous donnerons toujours toute la gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. David, on a parlé de David. Une des qualités de David, c'était qu'il savait reconnaître sa faiblesse. Ça, c'était une des qualités de David. Lui-même, il le dit dans 2 Samuel 3:39. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles, je vous lis juste le verset ici. Dans 2 Samuel 3:39, David disait, « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Regardez-moi. Il révèle là son esprit. Il a reçu l'onction royale et il n'a pas été enflé d'orgueil. Il réalisait sa faiblesse, son néant. Je suis faible, quoique je sois loin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a utilisé David. Mes amis, un des plus grands dangers dans notre vie chrétienne, c'est de croire que nous sommes forts en nous-mêmes. Que Dieu nous préserve de cela. Amen. Que Dieu nous préserve de cela. La blessure de la contrition. Je lisais aussi le témoignage d'un roi dans l'Ancien Testament. C'est le roi Ozias. On trouve son histoire dans 2 Chroniques 26. Vous pourrez lire à la maison, 2 Chroniques 26. Il y a là une illustration pour chacun d'entre nous avec ce roi Ozias. Il a merveilleusement bien commencé et il a malheureusement très mal fini. Et comment a-t-il bien commencé? Il est dit de lui, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Quel passage extraordinaire! Pourquoi Ozias, qui a fait un travail extraordinaire en Israël, pourquoi est-ce qu'il prospérait? Tant qu'il recherchait la face de Dieu. Autrement dit, on recherche la face de Dieu. Pourquoi? Quand on se sent faible. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas assez? Parce qu'on ne réalise pas assez sa faiblesse. Vous êtes d'accord avec moi? Si on réalisait davantage sa faiblesse, notre seule prière serait « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Et Ozias était cet homme-là. À 16 ans, il a été roi. Et dès son jeune âge, il a réalisé sa faiblesse. Et tant qu'il réalisait sa faiblesse, il recherchait la face de Dieu. Et tant qu'il recherchait la face de Dieu, Dieu le faisait prospérer. Alléluia! Mes amis, qui que vous soyez ici, du plus jeune au plus vieux, Dieu veut vous faire prospérer. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut nous tous nous utiliser. Mais qui est-ce qu'il utilise? Celui qui recherche sa face. Celui qui recherche sa face. Celui qui recherche sa face, Dieu le fera prospérer. Amen. Amen. Car lorsqu'on recherche sa face continuellement, on réalise cette faiblesse intérieure. Seigneur, si tu n'es pas là, ce sera la catastrophe. Seigneur, si tu ne prends pas les choses en main, ce sera la faillite. Et Dieu veut nous placer dans cette disposition-là. C'est la plus grande bénédiction de votre vie. Beaucoup disent, mais moi je suis faible. Dieu ne peut pas m'utiliser, je ne suis faible, je suis faible. Ah bon? Si vous me dites cela, ben je veux dire, gloire à Dieu! Et vous me dites là une parole extraordinaire. Mais que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit. J'ai dit que je suis faible. Eh bien, je vous dis, gloire à Dieu! Mais vous n'avez pas bien compris encore une fois. Ça vous arrive souvent. Mais je suis faible. Gloire à Dieu, la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà, tu es justement l'instrument qu'il faut. Tu es justement l'instrument faible. Dieu n'utilise que des faibles. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que le faible dise, et c'est quand je suis faible que je suis fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, notre force, c'est notre faiblesse. Et pour d'autres, votre faiblesse, c'est votre force. Alléluia. Gloire à Dieu. La blessure de la contrition. Allons un peu plus loin avec notre ami Ozias. Il a bien prospéré, ça a duré longtemps, longtemps. La bénédiction de Dieu était sur sa vie. Et bien souvent le diable attend un moment pour cela. Il attend que vous soyez bien bénis, que vous ayez un bon poste, que vous ayez une bonne responsabilité, qu'on dit beaucoup de bien de vous. Ah, ça c'est valable aux serviteurs premièrement, mais aussi à tous les chrétiens, mes amis. Le serviteur en premier doit faire attention. Et ce que je vous prêche là, c'est à moi que je me prêche, premièrement. Mais cela s'adresse aussi à tous les chrétiens. Et il est dit à un moment donné, il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Voyez-vous, tant qu'il recherchait la face de Dieu, il fut merveilleusement soutenu. Il gagnait toutes les guerres. Aucun ennemi ne pouvait le vaincre. Mais il fut soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. À un moment donné, il a été conscient de sa puissance et ça a été le début de sa chute. Après, il est dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Est-ce qu'il avait le droit de brûler les parfums sur l'autel? Ce travail était pour qui? Il était pour les sacrificateurs. Lui, il était le roi. Il était béni. Quand on est un roi, on fait ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec moi? Il donnait des ordres à tout le monde. Et il a cru qu'il pouvait donner des ordres aux sacrificateurs. Son cœur s'est enflé. Il s'est... Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il est allé faire le travail d'un autre. Il est allé offrir du parfum sur l'autel. Et quand le sacrificateur a vu cela, il est tout de suite venu. Et la parole de Dieu dit, si vous lisez le passage après, 80 sacrificateurs avec lui sont venus. 80. Et ils lui ont dit, arrête! Tu fais quelque chose de très grave là! Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et comme il s'irritait, il s'est fâché. Il est roi, il a le droit de se fâcher. Entre guillemets. Pensez, il est roi. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il est roi. Bien souvent, hein, nous avons cette pensée-là. Je suis mon propre chef, je fais ce que je veux. Il n'y a personne au-dessus de moi, je fais ce que je veux. Il entra dans le temple. Et comme il s'irritait, contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Instantanément, la lèpre éclate sur son front. Les sacrificateurs, quand ils ont vu ça, ils l'ont tout de suite pris. Et lui, il a vu que la lèpre était sur lui. Il n'a même pas cherché à résister. Il savait que Dieu l'avait jugé et qu'il le rejetait. Un homme qui a merveilleusement bien commencé mais qui a tragiquement terminé. Mes amis, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette blessure de la contrition. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh, mes amis, tous ensemble, donnons toujours et toujours la gloire à Dieu. À Dieu, à Dieu, à Dieu. L'orgueil, c'est le plus grand des péchés, vous le savez comme moi. C'est l'orgueil qui a transformé un ange en un démon, en un diable. Satan autrefois était un ange. Un archange. Un ange d'une éclatante beauté. Et qu'est-ce qui a pu transformer cet être céleste? C'est l'orgueil. L'orgueil avilit la personnalité de quelqu'un. L'orgueil détruit quelqu'un. L'orgueil détériore quelqu'un. D'un ange, il en fait un démon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et l'orgueil, vous savez ce que c'est? Dans le texte original, on parle beaucoup d'orgueil. Quelle est l'essence même de l'orgueil, c'est quoi? La nature même, la racine même. Le mot orgueilleux veut dire se placer au-dessus des autres. En somme, l'orgueil, c'est le péché de compétition. On veut toujours être le premier. Vous voyez? L'orgueilleux, il n'est pas forcément contre les autres. Un orgueilleux n'est pas forcément contre les autres. Quand quelqu'un est béni, l'orgueilleux, il dit, oui, oh, c'est bien, c'est bien. Dieu te bénisse. Mais avec moi, c'est mieux. Ta bénédiction, oui, c'est une bonne bénédiction. Tes dons sont bons, je n'en doute pas. Mais si tu savais, le mien, mes dons, mon don, ma bénédiction est meilleure que la tienne. C'est cela l'orgueilleux. C'est le péché de compétition. On se croit toujours le meilleur. On veut toujours avoir la première place. Et c'est ce que le diable voulait faire. Il voulait la première place. Il voulait supplanter Dieu. C'est cela le péché d'orgueil. On est d'accord avec beaucoup. Mais pourvu que les autres ne nous dépassent pas, surtout pas. Parce qu'à ce moment-là, on révèle qui on est. Tant que vous étiez un peu à côté et en dessous, ça allait. Mais le jour où vous dépassez l'autre, l'orgueilleux se révèle. Il ne tient plus! Que Dieu nous en préserve, mes amis. Amen. Amen. Que Dieu nous en préserve. La blessure de la contrition. Oh, que Dieu nous blesse de cette blessure et que nous sachions toujours lui donner gloire. Gloire, gloire, gloire. Amen. Amen. Que de choses, que de mouvements, que de pasteurs, que d'églises prennent la gloire pour eux-mêmes et nul n'est exclu. Écoutez-moi bien, moi-même, chacun d'entre vous, personne ne peut dire ici, moi, jamais ça m'arrivera. homme dit, ne peut dire ici, moi, jamais ça m'arrivera. Le jour où quelqu'un dit cela, il est déjà séduit. L'orgueil est déjà entré en lui. Un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire quelque chose. Pas besoin d'entrer dans les détails. Il m'a dit, moi, jamais ça m'arrivera. Et malheureusement, plusieurs années après, cela lui est exactement arrivé. Il était trop imbu de lui-même. Il comptait trop sur ses propres forces. Et voilà pourquoi il était faible. La blessure de la contrition. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Amen. Alléluia. Quand le chrétien tombe, il peut tomber, mais pourvu qu'il tombe à genoux. Alléluia. Ne tombez pas à plat ventre, tombez à genoux. Alléluia. Alléluia. Tombez à genoux. Et c'est le chrétien qui avance à genoux qui va le plus loin. Amen. C'est le chrétien qui avance à genoux qui va le plus loin. L'autre, il y en a un autre qui peut courir, qui peut vous dépasser. Oh là, il va vite là-haut, au 100 mètres et tout. Oui. Mais la vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres. La vie chrétienne est un marathon. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. Un 100 mètres ou un 200 mètres ou un 400 mètres. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Allez, allez, allez. Pas besoin d'aller trop vite. Qui va piano va sano, mais qui va sano va lontano. Il y a des Italiens, ça. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Ça, c'est le chrétien. Lentement, mais sûrement, 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 sûrement. Amen. C'est un marathon. C'est une course d'endurance, la vie chrétienne. Il y en a qui font des exploits. Vous les voyez. Oh, oulala. Ouh, celui-là. Tu l'as vu? Extraordinaire! Des dons formidables! Au bout d'un mois, il y a déjà plus, ça commence à pâlir. D'autres, c'est au bout d'un an. D'autres, c'est au bout de quelques années. Mais au bout d'un certain temps, ça pâlit. C'est une course de vitesse. Ah, ils ont fait des choses extraordinaires pendant un temps, mais il n'y a plus rien du tout maintenant. À quoi ça sert-il? Cela ne suffit pas de bien commencer, il faut encore bien terminer. Il faut bien commencer et très bien terminer. Parce qu'on peut bien commencer et très mal finir, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette blessure de la contrition. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le péché qui nous fait tomber. On dit, c'est pas possible. Oh oui, avec certains, c'est le péché qui les fait tomber. Ils pêchent naturellement, ils sont disqualifiés, ça c'est sûr. Mais d'autres, ce n'est pas le péché, c'est la bénédiction. D'autres, comme Osias, ils sont incapables de supporter la bénédiction de Dieu. Leur cœur s'enfle. Lorsque Dieu les bénit, il commence à dire, regardez-moi un petit peu, hein. Dieu bénit, m'a béni, tout ça, voyez tout cela, hein. Et c'est aussi un peu à cause de moi, quand même. C'est grâce à Dieu, bien sûr, mais je suis là. Je suis là, quand même. Ouais. Que Dieu nous préserve et que nous sachions toujours lui donner toute la gloire. Amen. Si Dieu peut trouver un homme et une femme qui est déterminé à avoir cette blessure, gardez-la, et que vous ne soyez jamais guéri de cette blessure. Jamais, jamais. Ce sera votre meilleur signe de santé. Alléluia. Allez, cette blessure, c'est un signe de santé spirituelle. C'est un signe de vitalité. Nous devons constamment être faibles pour que constamment sa puissance se manifeste en nous. Et avec cela, il n'y a point de distinction. Nous sommes tous sur le même plan. Vous pensez que tu aurais pu dire à cet Osias, il est quand même roi, je ne vais quand même pas exagérer avec lui. Il n'y a aucune distinction. Un clochard ou un roi aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Il peut élever un clochard et il peut abaisser un roi. La deuxième blessure, il faut que je vous donne quand même toutes les blessures, il faut que je vous blesse un petit peu plus. Hein. Des bonnes blessures, là. C'est une blessure avec un baume. C'est une blessure qui fait du bien. Gloire au Seigneur. La blessure de la communion. Ça, c'est notre communion avec Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de vivre cette intense communion avec Dieu. Amen. Plus que jamais. Plus que jamais. Et cette communion avec Dieu se manifeste par une relation d'amour. Il ne faut pas oublier que notre relation avec Dieu, c'est avant tout une relation d'amour. Le Seigneur a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors je peux te donner du travail. Mais tu peux travailler pour moi à condition que tu m'aimes, que tu aies une relation d'amour avec moi. Beaucoup d'entre nous, notre relation avec Dieu est loin d'être une relation d'amour. C'est une relation forcée, contrainte, traditionnelle, ritournelle, rituelle. On vient à l'église parce qu'il faut y aller. On lit la Bible parce qu'il faut prier. On prie à l'église parce qu'il faut prier. Le cœur n'y est pas. Et quand le cœur n'y est pas, il n'y a pas de communion réelle. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être fait de bon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Et comment garder cette communion, cette relation d'amour, comme nous le faisons pendant ces conventions, en louant et en adorant beaucoup le Seigneur, mes amis. Un des secrets de David, c'était aussi son adoration. Pourquoi, avez-vous pensé, pourquoi aussi David a détruit Goliath? C'était un homme qui, chaque jour, avait décidé de louer son Dieu. Et parce qu'il était continuellement devant Dieu, dans la louange, l'adoration, lorsque l'ennemi s'est présenté devant lui, cet ennemi n'était rien pour lui. Il était dans cette communion avec Dieu. Et peu lui importait ce géant, parce qu'il avait un autre géant avec lui. Un autre géant. Et son Goliath, le géant devant son géant à lui, ne paraissait que comme une sauterelle. Et quand il s'approchait de Goliath, il le considérait comme une sauterelle. Et c'est sa communion avec Dieu qui faisait cela. Et si nous maintenons cet esprit de louange et d'adoration dans nos maisons, mes amis, régulièrement, vous ne pouvez plus être la même personne. Amen. Offrons chaque jour notre adoration à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenons cet esprit-là. C'est l'esprit de la victoire. Et lorsque Goliath s'approchera de vous, mais que vous avez auparavant adoré, béni, exalté Dieu, mes amis, quand on adore Dieu, Dieu devient grand et l'ennemi devient tout petit. Amen. Alléluia. Certains chrétiens, comme je le dis souvent, ils ont, en lisant leur Bible, je ne sais pas comment ils lisent leur Bible, ils ont une version différente. Ou alors ils doivent avoir des lunettes différentes. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la version qu'il faut changer ou si c'est les lunettes. Mais vous ne savez pas, quand ils lisent leur Bible, et voilà ce qu'ils, les déductions qu'ils en font. Ils ont un grand diable et un petit Dieu. Quand vous les entendez parler, on a l'impression que le diable, il fait tout ce qu'il veut. C'est le maître, c'est lui qui est partout, qui dirige partout, on le voit partout. Il y en a qui voient le diable partout. Partout, partout il le voit. Bon, attention, là c'est un démon là. Là, un démon là. Mais il y a des chrétiens qui le voient partout. Ah, ils ont un diable très grand. Et leur Jésus, il ne le voit plus. Où il est? Ah ben, je sais pas, il faut que je cherche, je sais pas où, je l'ai perdu. J'étais tellement, comment dirais-je, occupé à voir les démons que le Seigneur, je l'ai perdu. Non, mes amis, la Bible nous révèle exactement le contraire. La Bible nous révèle un grand Dieu et un petit diable vaincu. Alléluia! Alléluia. Savez-vous qu'en voyant un peu le diable toujours partout, en voyant toujours le diable partout, vous glorifiez le diable sans vous en rendre compte, vous le glorifiez. Et il est content, le diable. Et il dit, voilà, c'est bien, continue. Parle un peu de moi, parle, vas-y. Ah oui, le diable par-ci, le diable par-là, viens. Ouh là là, celui-là, ouh là là, j'ai un bon disciple là.
Quand celui-là, il est bien. Alors, il vous utilisera. Vous le glorifiez. Si nous parlons du diable, nous devons parler de sa défaite éternelle. Alléluia. Et d'un Christ glorieux, vainqueur, à qui tout est soumis. La blessure de la communion nous révèle un Christ glorieux. Et il n'y a que l'adoration qui fait cela. L'homme de prière, l'homme de louange. Dieu ne grandit pas, mais c'est notre vision de Dieu qui grandit. Amen. C'est pas Dieu qui grandit, mais c'est notre vision de lui qui grandit. Et si lui grandit, l'ennemi diminuera. Et nous pourrons ainsi le glorifier. Mais il faut cette communion, mes amis. Et le diable veut tout faire pour nous empêcher cette communion, n'est-ce pas vrai? Tout, gardons cette communion. Sans communion, vous êtes faible aussi. Vous ne pouvez rien faire. Sans cette communion avec le Seigneur, il n'y a rien du tout. Que Dieu nous préserve. Et je termine. La blessure de la compassion. Voilà une autre blessure aussi. Si nous voulons être en bénédiction à notre prochain. Cette blessure de la compassion, d'ailleurs c'est un peu pour ça que nous avons appelé cette compassion. À un moment donné, Dieu m'a montré, il m'a dit, si tu veux que quelque chose se passe avec toi, il faut que tu sois rempli de ma compassion. Il faut qu'il y ait plus de compassion lorsque tu prêches, lorsque tu pries pour les malades, lorsque tu fais quelque chose, il faut qu'il y ait plus de compassion. Parce que vous savez, quand on travaille pour le Seigneur, on peut le faire mécaniquement. On peut prêcher pour prêcher, on peut prier pour prier, on peut imposer les mains pour imposer les mains, sans y mettre son cœur. Et il n'y a rien de plus pire, il n'y a rien de plus desséchant, lorsqu'il n'y a pas de compassion, lorsque nous n'aimons pas la personne à laquelle nous parlons. Combien d'entre nous, nous parlons à certains, nous témoignons, mais nous n'aimons pas la personne à laquelle nous témoignons. Et après on est étonné, mais pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas béni? Nous ne devons pas oublier une vérité importante. Les gens répondent davantage, non pas à ce que nous disons, mais à l'esprit dans lequel nous disons quelque chose. Amen. Ça, c'est très important. Beaucoup d'entre nous disent, ah ben voilà, je lui ai récité 10 versets. Et avec ces 10 versets, s'il n'a pas compris, il ne comprendra jamais rien. Mais comment tu les as dit, ces 10 versets? Comment tu l'as dit? C'est plus important que ce que tu dis. Et les gens répondent davantage lorsqu'ils sentent la compassion derrière. Mes amis, la compassion ouvre les cœurs. Amen. Ouvre les cœurs. Peut ouvrir les cœurs les plus durs. Cette blessure de la compassion, combien nous avons besoin. Personnellement, si je réalise combien mon cœur est dur, je suis un homme avec le cœur dur. Et constamment, je dois dire, Seigneur, Seigneur, renouvelle cette compassion. Car en moi, je sais qu'il n'y a pas cela. Et c'est un combat continuel. Seigneur, il faut. Je ne peux pas prêcher, je ne peux pas prier, je ne peux rien faire sans cette compassion. Combien de fois je dis, si je ne peux pas vous aimer, aimer ceux qui sont devant moi, je n'ai pas le droit de vous parler ni de vous prêcher. Mais combien de fois avant de me lever, chaque fois avant de prêcher, le Seigneur me rappelle cela. Est-ce que tu aimes ceux auxquels tu t'adresses? Est-ce que tu les aimes vraiment? Et c'est chaque fois une remise en question. Il y a toujours des pensées en nous, avec l'un, avec l'autre, on a eu des petites choses, c'est rien du tout, mais oui, il faut la purification. Il faut que tout soit lavé dans la tête et dans le cœur, pour se lever devant Dieu et ne pas paraître comme un hypocrite. Je ne veux pas dire qu'il faut être parfait, qui est parfait, personne. Mais cette blessure doit être là. Et si nous sommes pleins de compassion, les autres le verront, n'est-ce pas vrai? Et ils répondront davantage à ce que vous dites. Que son nom soit béni. Alléluia. Et ne l'oubliez jamais, je termine par cela. L'Esprit de Dieu ne se manifeste réellement que dans un cœur qui est plein de compassion. L'Esprit de Dieu refusera de collaborer avec vous s'il n'y a pas ce désir de manifester la compassion de Dieu. Mais là où on veut parler, prier, prêcher, témoigner, prophétiser, faire quoi que ce soit, nous voulons le faire avec compassion, vous ressentirez une nouvelle onction du Saint-Esprit. Car la compassion attire l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous serez vous-même étonné combien c'est glorieux.
Alléluia. La blessure de la compassion est un moyen de garder dans nos vies l'onction du Saint-Esprit. Vous ne croyez pas que c'était une belle prière que cette chrétienne a faite? Ces trois blessures. Faites souvent cette prière, faisons-la souvent. Seigneur, je veux avoir ces trois blessures. La blessure de la contrition, où je donne toujours gloire à Dieu. La blessure de la communion, où je réalise que sans lui, je ne peux rien faire. Et la blessure de la compassion, qui seule touche le cœur des autres. Seule la compassion touche le cœur. Mais celui qui a compassion, ce n'est pas quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Loin de là, écoutez-moi bien, attention. Parce qu'avec compassion va aussi vérité. Compassion est synonyme de vérité. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous lui dites la vérité. Mais vous lui dites dans l'amour. Pas avec une matraque. Avec amour. Avec amour. Et plus la vérité est dure, difficile, plus vous devez la dire avec amour. Et si vous ne pouvez pas dire quelque chose avec amour, il vaut mieux vous taire. Parce que vous faites plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien, n'est-ce pas vrai? Combien de fois à notre égard, à votre égard, quand quelqu'un vous a dit quelque chose sans amour, qu'est-ce que vous avez fait? Tout de suite vous êtes bloqué, n'est-ce pas vrai? On se bloque. Mais dis-toi, reste en ton coin. Hein, tu fais bien la leçon là, tais-toi un petit peu. Hein. S'il y avait un peu plus d'amour, ça irait un peu mieux. Tout de suite on se bloque. Mais quand il y a l'amour, à ce moment-là, c'est un exemple, on est touché. On se dit, lui, il y a quelque chose que je n'ai pas en moi. On aide aussi les autres. On aide les autres. On les débloque. La blessure de la compassion. Mes amis, ces trois vérités, ce sont trois signes, trois marques d'un chrétien consacré qui peuvent bouleverser notre vie spirituelle, n'est-ce pas vrai? Que Dieu nous aide à mettre ces vérités en pratique et à glorifier son nom. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous voulons nous courber devant toi, nous humilier aussi, car nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Mais Seigneur, tu n'es pas ici pour nous condamner. Tu es là pour nous parler, pour nous purifier, pour nous relever et pour nous transformer et pour nous envoyer, Seigneur, comme des hommes nouveaux pour glorifier ton nom dans ce monde. Seigneur, fais que ces trois blessures soient constamment dans nos vies. Ô Jésus, Jésus, c'est ma prière ardente. Aide-nous, Seigneur, chacun à bien commencer notre vie chrétienne et à très bien l'achever. Ô Seigneur, nous voici, car tu veux te manifester de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci pour tes projets merveilleux que tu as pour nous. À celui qui manifeste ces trois caractères. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous voici pour ton service et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur.